Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous y sommes avec notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans nos sociétés contemporaines. Une émission qui vous donne l'occasion de s'exprimer librement sur les ondes. Votre témoignage, votre expérience avec la justice ou toute autre instance reliée à celle-ci devient un éclairage pour les citoyens. Voilà pourquoi nous vous invitons fortement à participer et de jouer pleinement votre rôle de citoyen. Épargnez à d'autres victimes l'enfer des abus de pouvoir. Nous sommes tous concernés. Ça me revient souvent à l'esprit ces paroles divines de Martin Luther King qui nous disait « Une injustice faite à l'un est une injustice faite à tous ». Croyez-moi, chers citoyens, ensemble nous arriverons à ralentir le train de l'injustice. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, un militant du MAJ, un mouvement indépendant pour la surveillance civile des institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer leurs abus de pouvoir. Maintenant, chers citoyens, savez-vous que si vous êtes inscrit sur une liste électorale, vous pouvez en tout temps recevoir un ordre, une sommation, de se présenter à la cour pour faire partie d'un groupe de citoyens appelés jurés. Et vous devez se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence d'une personne accusée d'avoir commis un acte criminel. Attention, si vous ne pliez pas à l'ordre, vous êtes passible d'une poursuite pénale. Restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs. Un père de famille qui a demandé pour son procès être jugé par des citoyens regrette aujourd'hui lourdement de l'avoir fait.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Rebonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Vous savez peut-être comme moi que chaque citoyen a un rôle à jouer dans sa société, et celui qui le concerne, c'est d'assurer le bon fonctionnement des lois et l'exercice efficace de la justice. Donc voilà pourquoi ne soyez pas surpris d'être un jour convoqué par la justice pour remplir pleinement la tâche d'un juge. Vous allez peut-être me dire comment. Si vous êtes sur la liste électorale, vous pouvez être appelé à tout moment pour former ce groupe appelé juré. Autrement dit, si vous allez exercer au moins une fois dans votre vie la fonction d'un juge, et vous ne pouvez pas dire facilement non. Si vous ne répondez pas à l'ordre, comme je l'ai dit à la sommation, vous allez être poursuivi dans le pénal. Tout cela rentre dans la rubrique des droits et des devoirs du citoyen. Sur ce fait, il n'y a aucune négociation. Alors, la dernière fois où j'avais assisté à cet exercice de sélection du juré, la dame, je me souviens bien que la dame qui se trouvait juste à côté de moi paniquait. Donc, elle me disait « Non, moi, je ne ferai jamais ça ». Et précisément dans ce procès que je vais vous parler tout à l'heure. Donc, la dame en question, finalement, elle avait pas tort. Je lui dis simplement qu'elle aurait pu faire une demande d'exemption. À ma connaissance, c'est rare où un juge refusera une telle demande. Enfin, même rendu à ce stade un peu avancé, je lui ai rassuré qu'elle peut toujours parler au juge. Donc il faut souligner aussi qu'il s'agit d'une sélection assez rigoureuse. Autrement dit, ce n'est pas tout le monde qui sont retenus. La dernière fois où j'avais assisté à cet exercice, donc il y avait environ 450 à 500 candidats, et vers la fin de la sélection, il restait 12 candidats qui étaient désignés jurés pour le procès en question. Donc la loi bien sûr protège les personnes appelées à agir comme jurés. Par exemple, un employeur ne peut ni congédier, ni suspendre, ni déplacer un employé qui a été convoqué comme candidat juré ou qui agit comme juré. La durée est indéterminée selon le cas. Mais, mes chers citoyens, si vous serez choisi par hasard et sélectionné, vous allez simplement devenir, pour la durée d'un procès, juge. Vous effectuez le même travail qu'un juge. Vous entendez les témoins assignés au procès. Vous allez aussi examiner les éléments déposés en preuve, documents, objets, etc. Et vous devez former une opinion à partir des faits exposés au cours des procès et des explications données par le juge. Le juge qui préside la cour n'est, si vous voulez, plutôt si vous me permettez, n'est qu'un gardien qui veille au respect de la loi. À la fin du procès, si le jury déclare l'accusé non coupable, celui-ci sera acquitté sur le champ. Si par contre le jury déclare l'accusé coupable, le juge prononcera la sentence appropriée, ce qu'il peut faire immédiatement ou ultérieurement. Le problème que nous avons ici, c'est que ces personnes choisies au hasard pour former un jury ne sont pas des experts en droit, et des fois ils n'ont aucune notion de droit. Nous avons dit qu'il y a un juge qui veille sur ce côté, jusque-là ça peut aller, mais ces personnes n'ont pas l'habitude de juger les gens à ce stade. Ils ignorent beaucoup de choses sur l'art du mensonge et du vrai. Un juge d'expérience va détecter des fois rapidement le vrai du faux. Et les années de l'exercice forgent chez lui un troisième regard. Et malgré cet avantage, il lui arrive dans des cas de se tromper. Donc, après une pause musicale, nous allons voir ensemble comment un père de famille de 3 enfants qui a choisi d'être jugé par ses concitoyens est issu malheureusement d'un verdict de culpabilité. Comment une présumée victime a pu convaincre facilement le juré de la culpabilité de son ex sans aucune preuve matérielle, sinon des oui-dire.
Thank you.
Bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous avez tous peut-être entendu parler de ce mariage arrangé qui a mal tourné. Donc, le journal de la presse avait consacré 3 articles à ce procès et qui a duré 2 semaines au palais de la justice de Montréal. Donc, on peut lire dans la presse du 10, 18, 28 du mois de septembre de cette année un mariage arrangé qui a mal tourné. Il a batté et l'empêché d'apprendre le français, raconte son ex-femme. Et le dernier article écrit, toujours par Madame Christiane Desjardins de la presse, la couronne demande 7 ans pour le mari violent. Vous allez voir aussi que les 2 premiers articles écrits de manière plutôt mécanique, lourds de préjugés, condamnant l'accusé avant même la prononciation du verdict, dès l'apparition de son premier article, j'ai averti la journaliste en question qu'elle faisait fausse route. Mais l'idée était déjà longtemps construite d'avance. Un arabe et violent par excellence. Par ailleurs, Mme Christiane Desjardins voulait à tout prix connaître la raison pour laquelle l'accusé a préféré de retourner à son pays natal pour trouver une épouse. Et je voyais clairement son étonnement face à ce conflit familial, face à un couple qui appartient à une autre culture que Mme Christiane Desjardins ne pourra jamais saisir les paramètres. Je lui avais demandé de poser directement la question à l'accusé, mais elle n'a pas voulu le faire. Elle ne voulait pas rectifier son tir en cas d'erreur. Et pourtant, il était devant elle, encore libre de son destin, juste à côté. Elle a pu connaître sa propre version. L'accusé m'a demandé, Monsieur Zitouni, vous avez lu ce qu'elle a écrit et fait signe vers la journaliste en question. Il était étonné, surpris. Je lui ai simplement répondu, ils sont là pour écrire des articles. Hein. Écrire, c'est leur gagne-pain. Comme toi, tu fais du pain, eux aussi, ils font écrire des articles. Il a répondu, pas tous. Il m'a vite ramené à l'ordre. Ma pensée était à ce moment un peu loin. La journaliste reprochait à l'accusé le mariage arrangé, le fait d'aller chercher une femme ailleurs, d'avoir empêché sa conjointe d'apprendre le français, de ne pas lui avoir envoyé de l'argent alors qu'elle était encore en Algérie. Enfin, tout ce qui n'a pas rapport avec le procès. Bien sûr, à partir de ces informations et de cette description que je vous invite à relire dans le journal de la presse du 10, 18 et le 28 du mois de septembre 2010, que les citoyens et même probablement les jurés ont réussi à construire une opinion sur l'accusé. 7 ans de prison demande la couronne. La couronne qui ne connaît absolument rien de cet individu sinon des oui-dire. Aucune preuve matérielle, aucun rapport médical, aucun voisin ou autre a pu témoigner. La femme qui sortait tous les jours n'a en aucun moment déposé une plainte contre son ex ou s'est plaignée à qui que ce soit. Pourtant, elle vient à la cour pour dire que son ex le battait presque tous les jours et cela depuis 2000. Madame décide en 2008 de déposer une plainte au service de police. On désigne une enquêtrice dans le dossier et la famille est foutue à jamais. Donc, l'homme dans cette histoire était reconnu coupable à tous les chefs d'accusation par les jurys. Principalement voies de fait ayant causé des lésions, menaces de mort et agressions sexuelles contre son ex-femme, voies de fait contre les 2 enfants âgés de 5 ans et de 8 ans, c'est ses propres enfants, et bref. Donc vous allez peut-être apercevoir à la fin de cette émission qu'il y a toute une tempête juridique. Si vous l'approchez de tout près, vous allez découvrir une brise soufflant le conflit d'un couple mal ajusté. Mais permettez-moi avant, on va écouter le témoignage de la belle-sœur de l'accusé et nous allons revenir avec vous. Donc voilà, bonjour Linda, vous savez que suite au verdict de culpabilité, la couronne demande 7 ans de prison pour ton beau-frère. Encore plus grave, donc elle veut qu'il soit déclaré dangereux pour la société. Principalement, donc, il était reconnu coupable de voies de fait sur son ex et sur ses 2 enfants, et il est décrit comme violent. Linda, que pensez-vous de tout ça?
Ok, horrible, premièrement.
Quand vous disiez horrible, c'est la décision,
Oui, parce que c'est pas un homme violent, c'est pas un homme dangereux, c'est une bonne personne.
Vous le connaissez depuis combien de temps?
Ça fait environ 12 ans.
12 ans.
12 ans.
C'est ton beau-frère, c'est ça?
Oui, c'est mon beau-frère. J'ai travaillé avec. C'est une personne très timide, très gênée. Même après 12 ans, il est toujours. Toujours timide, c'est toujours moi qui il faut qu'il le métallise, ah oui. Il est très gêné. Mais il est doux, très respectueux, ouais. très respectueux. Ouais. On a travaillé ensemble, je l'ai trouvé toujours, c'est ça, respectueux, gentil, ouais. Doux, jamais déplacé, toujours.
Est-ce que vous l'avez constaté à un moment donné où qu'il était violent ou avec il a levé la voix?
Non.
En aucun moment, madame.
Non.
Vous le connaissez depuis 12 ans et en aucun moment vous avez vu, aperçu un temps qui change chez lui.
Non.
Il est toujours sur la même ligne, c'est-à-dire toujours quelqu'un de respectueux, gentil, calme et tout.
Oui. C'est sûr que des fois, au travail, même moi, je suis nerveuse.
Oui.
T'sais, on est stressé,
oui.
Mais pas de méchanceté ou quoi, ouais. Que ce soit, même c'est ça, très respectueux.
Oui.
J'ai travaillé avec des personnes qui étaient moins dans des stress,
oui.
Qui sont plus colériques. Puis, non, lui, Elias, il a toujours été
donc
très
vous
gentil.
Vous avez toujours eu un rapport amical.
Oui, toujours. Okay. Puis il m'a amené des petits croissants, très gentil.
Ouais. Mais rapport avec ses enfants, quelle est la relation que vous connaissez de lui, quelle est sa relation avec ses enfants? Comment il traite ses enfants, comment il est avec ses enfants, selon vous?
Il pense beaucoup à ses enfants.
Oui.
C'est très important pour lui.
Ses enfants, ouais.
Ses enfants sont très importants pour lui.
Mais si je te dis
plus que lui-même.
Ouais, mais si je te dis, pensez-vous qu'il est capable de frapper, de battre ses enfants?
Non.
Ouais. Pourquoi
non, pas
vous
du
ça?
Tout. Ben, je pense pas, ça se voit, c'est dans son comportement, c'est pas, même, c'est ça, c'est, même avec les autres enfants, tu vois que c'est un homme qui adore les enfants.
C'est ça.
Fait que même quand on travaillait des fois à la vente de trottoir, puis il y avait des enfants, puis tout ça, puis il était toujours avenant pour les enfants, puis c'était pas ses enfants. Fait qu'avec ses enfants, c'est encore, c'est plus, plus important, tu voyais que lui-même.
Mais
c'est son amour,
déjà,
il était doux, il était très gentil. Oui.
Vous avez constaté qu'il y avait un rapport de vraiment de père d'enfant.
Oui. Puis tu vois là qu'il s'inquiétait toujours pour c'est l'avenir de ses enfants, l'éducation, une belle éducation, quelque chose de bien.
Il s'implique dans la famille.
Oui, il faisait du sport.
Je veux savoir à propos de. Est-ce qu'il vous a parlé de sa femme? Connaissez-vous un petit peu la relation avec sa femme?
Un peu, mais pas mal. Okay. C'est pas le genre de personne qui va dire. Qui va dégrader sa femme.
Sa femme non.
Okay. Non.
Il parle toujours du bien d'elle?
Il trouvait que il disait peut-être que que c'était difficile, surtout quand il était séparé.
Ouais, mais non,
il a pas parlé méchamment d'elle. Non, mais c'est ça. Il parlait toujours qu'il trouvait ça triste pour les enfants.
Pour les enfants, voilà.
Ouais. Puis moi-même, j'ai vécu ça. Une séparation, ouais. On trouve ça triste pour les enfants. Ça nous inquiète parce que tu sais, les enfants, c'est ça. Moi, j'étais chanceuse parce que quand je me suis séparée, c'était bien. Les enfants n'ont pas été victimes.
Voilà,
oui. Ils n'ont pas été détenus en otage. Mon fils, il voulait voir son père, j'appelais. Bon, mais il veut te voir. Il n'y avait pas de haine, là. On s'est séparés parce qu'ils ne m'aimaient plus, mais les enfants restent nos enfants.
Tout à fait. C'est ce verdict que vous disiez de culpabilité. Si, par exemple, Ilias, il va passer je ne sais pas combien d'années en prison et tout, vous pensez, qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir des enfants?
C'est horrible.
C'est horrible, hein,
ouais. Horrible. Puis je ne comprends pas parce que c'est ça pas Il peut avoir un conflit entre un homme et une femme.
Ouais, ça, je suis sûr, oui.
Mais de faire ça à un homme, ouais. Puis à ses enfants, parce qu'elle ne se rend pas compte que ouais. c'est le père de ses enfants, là.
Ouais.
Puis c'est une bonne personne, puis c'est un bon père. C'est pas parce que c'est un mauvais mari que c'est un mauvais, une mauvaise personne.
Tout à fait, oui. Donc, okay. selon vous, pour conclure, est-ce que vous pensez que c'est juste ce verdict-là?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non.
Vous êtes certaine de vous, madame?
Sûr. À 100%.
Merci, madame.
Chère auditrice, rebonjour. Donc, on va faire une pause musicale et une annonce et on revient avec vous.
Maria avait deux enfants, deux garçons dont elle était fière, et c'était bien la même chair, et c'était bien le même sang. Ils grandirent sur cette terre, près de la Méditerranée. Ils grandirent dans la lumière, entre l'olive et l'oranger. C'est presque au jour de leurs 20 ans qu'éclata la guerre civile. On vit l'Espagne rouge de sang crier dans un monde immobile. Les deux garçons de Maria n'étaient pas dans le même camp, n'étaient pas du même combat. L'un était rouge et l'autre blanc. Qui des deux tira le premier? Le jour où les fusils parlèrent, et lequel des deux s'est tué sur le corps tout chaud de son frère? On ne sait pas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on les retrouva ensemble, le blanc et le rouge mêlés, à même les pierres et la cendre. Si vous lui parlez de la guerre, si vous lui dites liberté, elle vous montrera la pierre où ses enfants sont enterrés. Maria avait deux enfants, deux garçons dont elle était fière, et c'était bien la même chair, et c'était bien le même sang.
Radio Centre-Ville vous invite à faire connaître davantage vos produits et services. Vous êtes en affaires et aimeriez cibler certaines communautés de Montréal? Rien de plus simple. Nous vous aiderons dans la conception de votre message publicitaire et dans la stratégie à adopter pour vous adresser aux communautés que vous aimeriez rejoindre. Nous leur parlerons de vous dans leur langue maternelle. Ce sera donc personnalisé et fort sympathique. Radio Centre-Ville est à but non lucratif et nos tarifs publicitaires sont tout petits. Pour de l'information sur votre publicité à Radio Centre-Ville, rejoignez Daniel au 514-495-8836, 495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de vous sur Radio Centre-Ville.
Bonjour à vous et bienvenue dans votre magazine favori. Comme à chaque semaine, Émilie nous parlera de sport et Mathieu de science.
Et toi, Steve, tu vas encore nous parler de culturel et de social.
Exactement, Mathieu.
Sans oublier nos collègues Mélodie et Dino avec la fameuse chronique humanitaire, économique et montréalaise.
Et on commence tout de suite avec...
Pour entendre la suite, rendez-vous tous les vendredis 11h30 pour 1h30 d'informations et de divertissements.
Le magazine du vendredi, c'est seulement sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Reggae! Reggae!
l'émission Reggae Dom, c'est les mercredis de 14h à 15h sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Le meilleur de l'actualité sur le reggae francophone et créolophone. Venez vous délecter de la meilleure musique sur les ondes de la Radio du Soleil. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
En matière de musique du monde, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Donc, des citoyens agités de vivre une expérience unique dans leur vie peuvent commettre une erreur impardonnable. Ils peuvent détruire la vie d'une famille, par exemple, sinon celle d'un homme fort possible innocent. Voilà comment le devoir d'un citoyen appelé d'être juré est définitivement difficile. Dans cette cause, le juré n'a probablement pas eu raison et vous avez pu être, vous ou moi, à leur place. C'est aussi compliqué que vous pouvez l'imaginer. Donc, les jurés dans ce procès étaient trop influencés par l'attitude de l'épouse qui jouait bien la victime. Vous savez que même le juge Claude Champagne, qui a présidé ce procès, avait de la difficulté à prononcer une sentence par le fait qu'il ne connaît rien de l'accusé, aucune preuve réelle, à part des oui-dire qui ne s'appuyaient sur aucun rapport ou témoin crédible. 7 ans de prison pour un conflit conjugal, c'est jamais vu. Donc une femme a décidé finalement de se venger de son mari et les conditions d'une justice aveugle lui permettent de réaliser son souhait. Mais à quel prix? Maintenant, chère auditrice, chers auditeurs, regardez avec moi cette image de l'accusé qui avait pourtant refusé de témoigner dans son procès. Je vais plus tard peut-être vous expliquer pourquoi. Regardez-le, voilà, il se lève en pleine audience et en adressant la parole directement au juge Claude Champagne. « Monsieur le juge, moi, je n'ai rien fait de mal à ma femme. Les jurés ne savent pas la vérité. » C'était la seule fois où l'accusé avait prononcé ces mots devant la cour. Les jurés n'étaient pas en salle, ils étaient en délibération. Malgré qu'il est resté tout le long de son procès silencieux, paralysé, sinon le regard pleinement émotif crucifié sur le visage du juré qui le contemplait de près. Bien sûr que cette fois où il parlait, l'honorable juge Claude Champagne lui avait ordonné de se taire, puisque le verdict a été déjà prononcé. Vous savez, chère auditrice, chers auditeurs, quand l'accusé m'avait appelé de la prison où il est détenu présentement, il m'a confirmé une seule chose que j'avais besoin. C'est que tout ce qui a été dit à la cour, c'était des mensonges de la part de l'ex-épouse. Et la seule chose qui est vraie dans tout ce procès, c'était cette phrase de l'accusé en dernière instance, monsieur le juge, moi, je n'ai rien fait de mal à ma femme. Les jurés ne savent pas la vérité. Les jurés ne savent pas la vérité. La victime qui est l'ex-conjoint de l'accusé ne porte aucune trace de blessure, aucun témoin crédible, aucun voisin n'est venu témoigner d'un bruit ou d'une violence quelconque. Aucune plainte préalable, aucune confidence, selon le témoignage de l'ex-épouse. Le mari le battait quasiment tous les jours et cela pendant une dizaine d'années. 10 ans, aucune plainte à la police ou autre qui démontre réellement que le mari était violent. Aucun service de médiation n'a été offert pour que la famille reprenne vie et racine de nouveau, mais plutôt des vautours, procureurs sur la défensive, enquêtrices remplies de haine, travailleurs sociaux chômés, journalistes robots, des jurys inconscients inaptes à un tel procès. J'étais surpris par l'espace féministe qui a participé à la condamnation de ce père de famille, de 3 garçons, les enquêtrices de la SPVM, tous des femmes dans ce dossier, les travailleuses sociales, des femmes, la procureure de la couronne, encore une femme, les jurés, la plupart des femmes, les 2 journalistes de la presse, des femmes, la griffière, une femme, l'assistance du jugé, une femme, et j'en passe. Tous sont venus porter leurs regards remplis de vengeance sur un homme présumé coupable, sur toute la ligne, l'homme en question est d'origine arabe. L'accusé n'avait aucun intérêt à se lever et adresser la parole au juge, à la justice, puisque le verdict était déjà prononcé. Il savait que c'était trop tard. La machine ne peut pas faire marche arrière. Mais malgré tout ça, lui qui n'a jamais prononcé un mot tout le long de son procès, il trouve nécessaire de libérer sa conscience. Monsieur le juge, les jurés ne savent pas la vérité, et je n'ai rien fait de mal à ma femme. Rien fait de mal à ma femme veut dire, dans son langage et selon lui, qu'il y avait des conflits, mais rien de mal au point d'être là devant la cour. Les jurés ne savent pas la vérité, sur ça, il avait tout à fait raison. Deux choses qui dérangent dans ce procès, qui bien sûr ne reflètent beaucoup d'autres, imaginez-vous, chers auditrices, chers auditeurs, si la femme n'a pas dit la vérité. L'accusé va passer combien d'années derrière les barreaux injustement? Les enfants seront privés de leur père, peut-être les moments où ils ont le plus besoin de lui. Maintenant, j'aimerais bien que... on va écouter ensemble le témoignage du frère de l'accusé. Qu'est-ce qu'elle va nous dire de son frère?
Simple mot, on a le pouvoir de tout détruire. Et avec les mêmes mots, on a le pouvoir de tout décrire. Les mots prônent la haine, mais ils chantent l'amour. Les mots n'ont peur de rien, car les mots ont de la bravoure. Les mots ont de la colère, mais ils ont une douceur. On se forge un caractère quand on chante nos douleurs. C'est grâce à l'écriture que je surmonte mes épreuves. Mot par mot, je suis en train de bâtir mon œuvre. Les mots ont du pouvoir, ils sont audacieux. Et on s'inspire d'eux, car ils sont courageux. Les mots ont de la tristesse, les mots ont d'une noblesse. Et ils se collent à ma vie. Car les mots sont modestes, les mots me grugent de l'intérieur. Ils me font voyager en attendant un monde meilleur. C'est grâce aux mots que je raconte mon histoire. Les mots peuvent me guérir, les mots me donnent de l'espoir. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames. Les mots viennent de là, les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Y'a des mots qui instruisent, détruisent, des mots qui méprisent, des mots qu'on utilise quand on veut se faire la bise. Y'a des mots qui prédisent, s'enlisent, les mots qu'on banalise, les mots qui nous divisent et les mots qui nous brisent. Y'a des mots qui s'entendent, qui se répandent, des mots qui prétendent, des mots qui nous offensent, c'est les mots plus tendres. Y'a des mots qu'on prononce avec prudence, c'est les mots qu'on lance, les mots qui nous dénoncent et ceux qui nous défendent. Y'a des mots qui blessent, qui fessent, les mots qui protestent, les mots d'ivresse remplis de promesses qui te laissent grotesques. Les mots plus doux, les mots plus sales, les mots plus fous, les mots plus joyeux, les mots qui se cachent dans un journal, les mots qui parlent, les mots qui partent scandale, les mots plus graves que ceux qu'on grave sur une pierre tombale, les mots qui pleurent, les mots du mal, les mots du cœur, le mot final, les maudits mots, les maudits mal. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme, les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme, les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme, les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme, les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots sont bohèmes, ils prônent le blasphème, ils chantent nos problèmes, et les mots récitent nos poèmes. Les mots ont une devise, les mots ont plusieurs thèmes, et ils sauvent des vies, car ils donnent de l'oxygène. Les mots marquent le temps, racontent le présent, les mots s'envolent et nous éclairent en tombant. Les mots sont optimistes, ils pensent nos cicatrices, les mots nous font peur, car ils sont réalistes. Ils sont plutôt espiègles, les mots n'ont pas de règles, ils racontent nos vérités, car les mots sont intègres. Les mots valent mille images, s'expriment dans plusieurs langues, mes mots donnent la vie, car mes phrases sont vivantes. Ce qui m'inspire, c'est la vie que je respire, les peines comme les sourires, la beauté de mes souvenirs. Et les mots m'ont appris qu'on se doit d'être sincère. Quand les mots sortent du cœur, y'a pas que nous qu'on libère. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Euh, Bonjour Karim, donc voilà, vous êtes le frère de Ilyes et vous avez entendu Linda, votre conjointe, parler de Ilyes. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire-là?
Je trouve ça déplaisant, c'est malheureux d'un gars de ce genre, par exemple, qui a pris une sentence comme ça, qu'on le décrit de cette façon. Et je trouve ça vraiment malheureux parce que c'est pas le genre de gars, c'est le contraire.
Quand vous disiez le contraire, qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est un bonhomme très... Pour moi, je m'excuse l'expression, mais pour moi, c'est un agneau. Un agneau qui est passé à l'abattoir. C'est un bonhomme qui est très doux, très gentil, très timide. C'est pas son genre. Je veux dire, de le faire passer pour un gourou comme ça, c'est pas le genre d'homme. Au contraire, c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est un agneau. Pour moi, je le considère comme un mouton qui passe à l'abattoir.
Mais c'est quand même bizarre, parce que quand même la couronne, elle demande qu'il sera déclaré dangereux public, là. C'est grave, là. Vous comprenez, là?
Ouais, ouais,
ça,
ouais.
C'est, vous connaissez un petit peu votre frère, vous connaissez sa, votre belle-sœur et tout, vous connaissez des enfants. Quelle est la relation qu'elle avait avec sa famille, quoi?
Ce que je connais, disons, parce que ça, pour moi, ce que je comprends là-dedans, c'est plus un problème familial qui a dégénéré, qui a dégénéré auprès des familles. Automatiquement, la femme, elle se venge pour le faire payer, pour faire mal à sa mère qui a 70 ans.
Ça, tu es en train de le dire, excuse-moi Karim, ouais. ça, derrière ça, il y a les deux familles, quoi.
C'est normal, c'est un conflit de famille, ça. Okay. C'est une séparation, c'est un conflit de famille, il y a un héritage là-dedans, il y a ceci, cela. Automatiquement, elle se venge, elle dit « Ah, je perds, et bien je le fais payer ». Mais c'est pas le genre d'homme, c'est un bonhomme qui est très gentil, il est très avenant avec ses enfants. C'est un très bon père.
Mais vous l'avez, j'imagine, vous êtes son frère, vous l'avez visité chez lui et tout, qu'est-ce que vous avez constaté, la relation avec ses enfants, ils sont venus ici chez vous aussi et tout?
J'ai jamais vu un père qui aime ses enfants comme ça.
Oui, oui.
J'ai jamais vu ça. Même moi, je lui reproche, je dis, c'est un petit peu trop, là. Et elle me dit, c'est mes enfants. Oui. Comme si qu'il est fier de les avoir, ou je sais pas, là. Oui. Je comprends, c'est ses enfants, il peut les aimer, mais pas de cette façon.
Oui.
Et elle a profité de l'occasion, qu'elle a vu qu'il est trop attaché à ses enfants. Elle le fait marcher, elle le tire par...
Elle veut le punir, tu veux dire.
Elle le fait marcher, comme ça.
Oui.
Mais c'est juste ça.
Oui. Mais selon vous, est-ce que Ilyes, il peut être violent de cette manière?
Non, pas du tout.
Oui. Agressif, violent, non.
Pas du tout.
C'est pas son genre.
C'est pas son genre. C'est un gars qui est très timide, très calme. C'est un gars très bien ordinaire.
Mais pourquoi d'abord cette femme-là, elle va aller, à part les conflits, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre avec les conflits entre familles et tout, qui l'amène? Quand même, il y a des enfants entre eux. J'aurais même vous poser une question avant. Est-ce qu'il y a bien une médiation? Est-ce que le gouvernement ici, on a envoyé une médiation pour essayer de régler le conflit entre les familles? Est-ce que ça, vous savez?
Je suis pas au courant.
Je suis pas au courant.
Non, okay. Je suis pas au courant de ça. Ouais.
Mais est-ce que vous avez intervenu auprès des deux personnes?
Oui, j'ai essayé de parler avec. Même j'ai passé des nuits chez lui juste pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai essayé de l'aider. Même j'ai dit, fais-moi un contact avec, que je puisse juste discuter pour voir, essayer de les aider et tout. Mais finalement, ça s'est pas produit.
Mais est-ce que la dame, sa femme, elle vous a dit à un moment donné comme quoi il l'a battue ou l'a frappée?
Non, jamais. Jamais.
Êtes-vous rentré chez elle une fois, vous avez trouvé des marques?
Jamais de la vie.
Son visage?
Non, jamais, jamais.
Parce que Karine, quand même, elle disait dans son témoignage comme quoi elle était battue presque chaque jour pendant 10 ans.
Non. J'y crois pas.
Oui.
Moi, comme tel, c'est pas parce que c'est mon frère que je vais le défendre, loin de ça.
Oui.
Lui, maintenant, il est en prison ou quelque chose. Et je dis ce qu'il y en est, c'est pas le genre d'homme qui peut faire une chose comme ça. Je pense pas.
Oui, donc Karim, vous m'avez dit que donc les jurés, plutôt votre frère, il s'est levé à la cour et puis il a adressé la parole au juge Claude Champagne pour lui dire, monsieur le juge, les jurés ne savent rien. Est-ce que vous pensez qu'Ilyes, votre frère, il avait raison de dire ça?
Bien sûr qu'il avait raison. Parce que tous, je veux dire, les jurys, ils ont pris un jugement comme ça, aussi rapide, que, je veux dire, ils l'ont mis coupable parce qu'ils ont écouté la femme, juste la femme.
Oui.
Et, ok, parce qu'ils ne savent pas, au niveau de la culture, c'est très très différent. Lui, il veut protéger quelque chose que les jurés, ils savent même pas c'est quoi. Il y a quelque chose qui est caché derrière ça.
Oui, mais quelque chose qui est caché derrière ça. Et on sait aussi que votre frère, il a refusé de témoigner. Selon vous, pourquoi ?
Parce que moi, souvent, j'ai discuté avec, au moment qu'il passait en cour, il s'inquiète trop pour ses enfants. Il dit, ah, si je vais témoigner, il va arriver quelque chose à sa femme, oh, le gouvernement, il va enlever les enfants, la DPJ, soi-disant, elle va enlever les enfants. Ouais. Et il dit, ah, je préfère me consacrer, moi, que voir ces trois jeunes enfants qui vont être dispersés dans des foyers d'accueil ou ceci, cela. C'est ça la raison. Parce que...
Ça veut dire qu'il n'a pas voulu témoigner, sinon ouais. il va vraiment...
Juste pour ne pas la nuire.
Ok, parce que la mère, finalement, le rapport mère-enfant, c'était pas très très bien.
Ça,
quoi.
C'est horreur enfant-martyr. C'est pareil, c'est ouais. Le mot qui convient là.
Donc finalement, celui qui a agressé réellement, c'était la mère envers ses enfants. Et si j'ai bien compris, lui, chaque fois qu'il intervient, c'est ça le problème, quoi, non ?
C'est ça le problème. C'est un père qui est très avenant et qui aime trop ses enfants.
Ouais.
Et il mérite même pas une journée en prison, ce bonhomme-là.
Et selon vous, ça veut dire lui, il n'a pas voulu témoigner contre sa femme,
ouais.
À risque que ses enfants ne vont pas avoir des problèmes, quoi. Il sacrifie lui-même.
Oui, ouais, il le dit. Même j'ai été le voir à la prison.
Ouais.
Et c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, je m'en fous, je passe mon temps, moi, pourvu que mes enfants, il ne lui arrive rien, là. Il est prêt à se sacrifier pour ses enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Croyez-le ou pas, mais c'est la vérité.
Oui. Donc, finalement, ce verdict de juré, de culpabilité, est-ce que pensez-vous qu'il y a, c'est à pas aider les jurés ou les jurés, ils ont mal
Les jurés, moi, à ma connaissance, ils ont mal interprété ça parce qu'ils ont écouté une femme qui en pleure, qui dit que j'ai été abusé, j'ai été ceci, j'ai été cela. N'importe qui, moi si c'était pas mon frère et ça va être une autre personne, si c'était moi le juré, je vais dire que cette femme elle dit la vérité,
ouais.
Parce que je connais pas l'histoire ni la culture, ni ceci, ni cela.
Mais c'est vrai qu'il y a que de oui dire, hein. Comme je l'ai mentionné, il y a ni preuve matérielle, ni preuve,
rien.
Ni rapport médical, oh. ni témoin crédible, ni absolument rien, c'est-à-dire que c'était vraiment une encrue sur des paroles, sans témoignage qu'il n'y a pas de...
sans témoignage, c'est juste ça.
Oui. Mais merci bien, Karim.
Ça me fait plaisir.
Ça vous décroche un rêve, ça le porte à ses lèvres, et ça part en chantant. Un enfant, avec un peu de chance, s'entend le silence, et ça pleure des diamants. Et ça rit à n'en savoir que faire. Et ça pleure en nous voyant pleurer. Ça s'endort de l'or sous les paupières. Et ça dort pour mieux nous faire rêver. Pose ses perles sur la portée du vent. Un enfant, c'est le dernier poète d'un monde qui s'entête à vouloir devenir grand. et ça demande si les nuages ont des ailes et ça s'inquiète d'une neige tombée et ça s'endort de l'or sous les paupières et ça se doute qu'il n'y a plus de fées, mais un enfant, et nous fuyons l'enfance, un enfant, et nous voilà passant, un enfant. Et nous voilà patience, un enfant. Et nous voilà passé. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Oui, bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Une triste histoire où
je t'inventerai des mots
condamné probablement à 7 ans de prison pour un conflit conjugal. Donc voilà, chers citoyens, être juré, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est une lourde tâche et parfois pénible. Nous espérons que la justice revoie cette histoire du juré quand il s'agit de conflits familiaux, puisque le sentiment peut prendre facilement le devant. Donc, malheureusement, c'est tout ce qui nous reste de notre temps. Je remercie le frère et la belle-sœur de l'accusé pour leur témoignage. Merci à Mario Longuet pour la technique et le son. Merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM pour cet espace libre. Merci à vous, chères auditrices, chères auditrices, d'avoir suivi notre émission avec intérêt. À moi, je vous dis à vendredi prochain et à la même heure. Et merci.
Ne s'épouse-t-il pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire
à t'écouter chanter et pleurer. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
S'envoler, libérer de ses démons, c'est un instinct de survie. On écrit depuis des lunes et on se doit d'évoluer. Écrire, c'est se mettre à nu, on se dévoile, on s'expose. C'est une question d'humilité, c'est nos tripes qui explosent. C'est pour ça qu'on écrit, c'est comme ça qu'on se délivre. Car l'émotion qu'on ressent ne se retrouve pas dans les livres. J'écoute d'autres rappeurs, d'autres slameurs, d'autres chanteurs. J'ai appris que les mots peuvent être très enchanteurs. Mais quand je dénonce l'injustice, j'ai un sacré caractère. Le message vient du cœur, ça traverse mes artères. Te paci mulți și oapaci gade. Ta pasi nimă win, te bue win, ma pao gozi win ne ga. Ei școase, anima gigi anghi da, nimi nu se nan. Mi tași ne tigi dunane, au ia go, ia ne gigi gindan. Chi ci uși piamă în capi, in adizian.
Avez-vous reçu votre autocollant Prudence au volant des amputés de guerre? Apposez-le sur votre voiture, votre motocyclette, votre bateau ou votre motoneige. En fait, là où vous désirez véhiculer le message Prudence au volant. Commandez-le sans frais au 1-800-250-3030 ou en visitant le site amputedeguerre.ca.
Les conducteurs et les amputés de guerre, de concert pour promouvoir la prudence au volant.
Qui a voté, qui vote, qui votera, pour qui et pourquoi? La réponse à l'émission L'Histoire jugera. Tous les mardis matins, dès 8h.
Au Venezuela, dans l'immense bidonville de Carapita à Caracas, plus de la moitié des 90 000 habitants ont moins de 30 ans et ils arrivent à peine à survivre. Des agents tentent de les recruter pour le commerce de la drogue et la violence est palpable. Le père Macao, missionnaire de la Consolata, veut procurer aux jeunes un endroit pour leur offrir des sessions sur les droits de la personne, les effets néfastes de la drogue, la liberté, la démocratie, la bonne nouvelle. Pour y réaliser ce projet, le Père a besoin de votre aide. N'hésitez pas à faire un don. Faites-le dès maintenant en composant le 514-334-1910. 334-1910.
Vous avez une soif inaltérable de savoir ? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102.3 FM et sur le câble au 88.3.